7. And some are bossy tech 9. Some are bossy Mac 11. We're getting to realize we're down in the slum. Can't get off the bum. Itchy, itchy. And it's getting well, well sticky.
Il est 20h01 et tout de suite retrouvez une nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Génération Sport. Vous êtes sur le 101.5 sur Radio G, bienvenue à vous. On est ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission entièrement dédiée à l'actualité sportive, qu'elle soit locale, nationale ou internationale. Ce soir, autour de la table, on a toujours notre spécialiste basket, l'homme qui a fait un pari un peu vaseux, foireux peut-être, mais bon, je pense que tout le monde l'aurait fait celui-là, c'est Faustin.
Ouais, salut, c'est le Juan, salut tout le monde, le pari basket en effet m'a pas réussi cette semaine, j'ai un peu le seum, j'ai pas perdu beaucoup mais... Ça fait chier.
Ouais, c'est navrant, c'est dommage pour toi, parce que c'est vrai qu'ils étaient quand même sur une très très belle série.
Et... J'y croyais à la 12e d'affilée.
Ouais, voilà. Et malheureusement, ça s'arrête à 12. Enfin, à 11 du coup, mais pas de 12 pour le Paris Basket. Notre spécialiste handball était également présent. Amaury, comment vas-tu?
Eh ben, très bien, même si on a été un peu déçus ce week-end de la fin de championnat d'Europe des filles. Qui sont malheureusement eu la médaille en chocolat après un super début de compétition, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, mais sinon, tout va bien. Moi, ça a gagné ce week-end, on enchaîne deux victoires de suite, ce qui n'était pas encore arrivé depuis le début de saison, donc c'est parfait.
C'est une bonne chose. D'ailleurs, Faustin, t'as gagné ou pas ce week-end?
J'ai plus de match, moi.
T'as plus de match, trêve pour
ouais,
toi.
Trêve jusqu'à je ne sais plus quand, après janvier. Donc,
Au moins, tu ne te trompes pas en introduisant.
Voilà, c'est ça. Il y en a exactement, parce que la dernière fois, j'avais lancé une victoire, et en fin de compte, c'était une défaite, mais bon, voilà. Il y en a bientôt un aussi qui est en trêve, bientôt dans quelques jours. C'est notre invité du jour, un joueur de l'EAB Basket, Mathéo Valton. Comment vas-tu, Mathéo?
Très bien, salut les gars.
On est ravis de t'accueillir dans l'émission. On va pouvoir parler voilà, de longuement de ton début de carrière, de ta formation du côté de Cholet, mais aussi de ta saison avec l'EAB et des prochaines, pourquoi pas aussi, de quels sont un peu les plans, les pistes un peu aussi pour la suite de ta carrière. Mais avant toute chose, on va quand même faire de l'actu locale et puis on va parler aussi du SCO foot rapidement. Même si voilà, l'objectif c'est de faire parler Mathéo ce soir et de parler aussi de basket avec lui, notamment aussi de NBA, pourquoi pas. On va parler de ce qui s'est passé avec le SCO foot, avec une nouvelle défaite pour le SCO, rageante, avec vraiment une panne d'attaque depuis quelques matchs là, mais c'est compliqué pour les hommes de Monsieur du jeu. Mais là, on a du mal. C'est dommage parce que c'était une victoire qui aurait pu être importante. Et malheureusement, celle-là, elle échappe aujourd'hui SCO Amaury.
Bah ouais, je trouve ça vachement dommage parce que ça fait un moment ou quelques matchs quand même, on se dit que le SCO c'est pas hyper beau à avoir joué, alors qu'on avait l'impression de se retrouver en tout début de saison, alors qu'on avait une plutôt belle phase. On se rappelle de la victoire à Monaco avec un beau pressing, etc. Et en fait, depuis quelques matchs. Ce match contre Rennes symbolise vraiment ça, où il n'y a pas véritablement d'intention de la part de l'équipe, pas vraiment de, c'est pas une équipe qui a l'impression de ne joue pas vraiment ensemble, ne fait pas les efforts ensemble, et face à Rennes, qui était quand même en grande difficulté depuis un moment, il y avait des points à aller chercher, il y avait en plus pas mal de supporters en juin qui avaient fait le déplacement, j'en avais parlé la semaine dernière, qu'il y avait eu des places offertes par le SCO pour pouvoir faire le déplacement. Et donc c'est bien dommage, maintenant on a un match de coupe qui arrive, sur lequel il va falloir se concentrer cette semaine.
Ouais, c'est une victoire et quatre défaites pour le SCO sur les cinq derniers matchs, c'est compliqué, c'est dommage. Bon, il y a cette victoire du côté du Havre qui a fait du bien parce que bah tu bats aussi un concurrent et un concurrent direct. Maintenant, la Coupe de France, tu l'annonces, ils jouent Bobigny ce week-end. C'est quand même un match quand même largement à la portée normalement du SCO. Mais bon, en Coupe de France, tout est possible. Qu'est-ce que t'en penses, Faustin ?
Bah ouais, ça peut être un match piège. On sait en région parisienne, c'est la plupart des jeunes cracks dans ce genre d'équipe qui peut faire mal au SCO avec une pression du public qui est assez différente de ce qu'on connaît en Ligue 1. Donc ouais, ça peut être un match piège. Normalement, devrait pas en avoir. Hein. Le SCO a juste à dérouler son jeu et ça devrait le faire. Mais faut quand même se méfier, pas sous-estimer l'équipe qu'ils vont affronter et rouler vers le second tour.
Ouais, rouler vers le 16e de finale. Exactement. C'est clair pour le SCO, en tout cas on l'espère de voir les hommes de Dujeu pour faire un beau parcours en Coupe de France. Ça pourrait aussi faire du bien un peu dans les têtes et au moral. On rappelle aussi que la suite de la saison au retour donc de la trêve, il y a un match, une réception de Brest, donc qui eux marchent un peu sur l'eau aussi en ce moment avec la Ligue des Champions, même si parfois en championnat c'est un peu plus compliqué, mais là ils reviennent bien. Et après il y aura le déplacement du côté de Montpellier qui sera très important.
Très important. Bah évidemment Montpellier qui est en très grande difficulté aussi de son côté, même si ce week-end, bon on en parlera tout à l'heure en fin d'émission, ils ont pu faire un match nul contre Nice. C'est des points hyper importants face à un concurrent direct qui est pour l'instant derrière et qu'il faut absolument laisser derrière parce que ne pas lui permettre de revenir.
On en parlera plus longuement dans les prochaines semaines quand on reviendra donc après les fêtes parce qu'il y a une petite coupure pour Génération Sport, mais après les fêtes on reviendra forcément sur la suite de la saison du SCO Angers. On reste du côté du SCO mais cette fois avec le SCO Volley. On rappelle que ce week-end c'est un week-end important pour le SCO Volley avec deux rencontres donc à la suite, les hommes d'abord à 17h puis les féminines à 19h. Juste avant, il y a un tournoi qui est donc organisé par le SCO Volley, donc pour ses adhérents. Mais si vous voulez voir du volley, des jeunes, des moins jeunes qui vont jouer au volley en même temps, un tournoi à la mêlée comme ils disent, ben allez-y, c'est à la salle Jean Villard. C'est ce week-end, donc le samedi dans la journée, puis après les deux matchs qui seront ouverts au public et vous allez pouvoir voir du beau volley avant les fêtes de fin d'année. Toujours dans l'actu locale, l'occasion quand même pour moi de saluer une de mes élèves, qui a fait une belle performance au championnat de France de cross Uxelles, qui correspond à l'UNSS, mais dans le secteur du privé, en fait. Voilà, elle a fait une belle 6e place sur 150, une basketteuse du Loir-BC à la base, qui court jamais, et qui, qui a gagné les championnats régionaux, qui a gagné, les championnats départementaux. Non, elle a fait 2e au départemental, première au régional. Et puis, elle s'est présentée du côté de Flers en Normandie vendredi dernier, elle a fait 6e. Donc, c'est une belle performance. Je donne son nom. Elle s'appelle Rose Brastreet. Et puis voilà, elle a fait vraiment une super performance et je suis très fier d'elle. Et donc aussi également, on va parler basket avec toi. La transition avec, elle est toute trouvée, vu qu'elle fait du basket du côté de Loir-BC. Mais on va parler basket avec toi, Faustin.
Oui, on va rester sur Angers avec d'abord l'UFAB qui gagne en coupe d'Europe contre Sosnowiec, pardon pour la prononciation, 86 à 60. Elles finissent deuxième de leur groupe en coupe d'Europe et se qualifient donc pour le tour précédent. En championnat, elles se sont malheureusement inclinées 84 à 74 contre les Flammes Carolo de Charleville. Malgré cette deuxième défaite d'affilée pour les Angevines, elles restent sixième au championnat. Maintenant du côté de Cholet, semaine inhabituelle pour les Maugeois qui enchaînent deux défaites, la première en Coupe d'Europe contre Bilbao 95 à 88 et la seconde en championnat 102 à 67, une grosse claque face à Bourg-en-Bresse et reste cependant toujours premier au classement grâce à la défaite du Paris Basket. Et maintenant du côté de l'EAB, il y a eu un match et une défaite malheureuse de 6 petits points contre les Sables d'Olonne 75 à 69. L'équipe reste 12e du championnat avant un dernier match avant la trêve le 19 décembre contre le Pôle France, dernier au classement, une victoire impérative pour finir l'année sur une bonne note.
C'est jeudi soir, à quelle heure exactement, Faustin, est-ce que tu as l'heure ?
C'est 20h, il me semble.
20h, eh bien Mathéo le confirme. Et on va pouvoir maintenant parler de la saison de l'EAB tous ensemble. Voilà, première question. Maurice, est-ce que tu as une question d'entrée de jeu ou pas ?
Bah, Faustin, je sais qu'il a commencé à lancer ça.
Ouais, moi, j'ai commencé un peu sur ta carrière et tout simplement, qu'est-ce qui t'a approché par le basket ? Comment tu as commencé à jouer au basket ?
Moi, j'ai commencé le basket un peu grâce à l'initiative de mon père, parce qu'on est on est une famille de basketteurs. Donc, il m'a un peu lancé ça un peu naturellement. Lui, il a été entraîneur pas mal d'années. Mon frère en a fait, ma mère en a fait, mes grands-parents aussi en ont fait du côté de mon père. Donc, ouais, c'est naturellement que bah je me suis inscrit à l'âge, je crois, de 4 ans dans le petit club du village où on habite. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le basket.
Ouais, t'avais ça dans le sang, quoi. Ouais, c'était de famille. Après, comment, du coup, avec ce petit club, ensuite, tu t'es fait repérer pour aller jouer au niveau nationaux des U15 voire U13, c'est ça?
Ouais.
Comment ça s'est fait pour monter aussi haut, aussi vite?
Bah, ça s'est fait un peu naturellement. Je pense pas qu'il y ait de trucs, magique ou prédéfini. Juste, bah, je m'amusais. J'essayais de faire le meilleur que je pouvais à chaque match. Et puis, ouais, je crois que c'était en U11. On avait joué un match qui est vraiment à 10 minutes de chez mes parents, c'était à Chemillé, ça s'appelle.
Ouais.
Et puis après mes parents travaillent à Chemillé justement, donc de fil en aiguille des parents qui connaissaient qui sont au club de Chemillé leur ont demandé s'ils pouvaient venir et je suis passé d'un club à un autre parce que Chemillé ça jouait à un meilleur niveau. Donc je suis passé là-bas. Et donc ouais, j'ai fait 3 ans à Chemillé où j'ai fait 2 années U13 région et 1 année U15 région surclassée. Et après, je suis allé à Cholet Basket parce que c'était pas loin aussi encore une fois de chez mes parents. Mmh. Et pareil, repéré je pense par le coach de l'époque, je crois Guillaume Bazin. Et donc voilà, je suis arrivé donc à Cholet en U15 France là-bas.
Ouais, justement là-bas, t'as pu évoluer avec certains grands joueurs actuels, ouais. Notamment Tidjane Salin, oui. qui évolue maintenant en NBA du côté des Hornets. Mm. Est-ce que t'es encore un peu en contact avec lui? T'as pu lui envoyer quelques messages après sa draft?
Non, on n'est plus trop en contact. Je lui avais quand même envoyé un message pour le féliciter de sa draft. Il m'avait répondu gentiment, mais non, sinon à part ça on n'a pas trop de contact, mais bon, en tout cas je suis ce qu'il fait d'assez près quand même ce qu'il fait, parce que à l'époque on a bien rigolé, on avait un bon groupe à Cholet.
T'as tout de suite senti cette formation choletaise quand t'es arrivé au club? On sent que c'est dans l'ADN du club et dans l'ADN du secteur choletais, le basket, on sent que c'est le sport numéro 1 là-bas. Est-ce que tu as senti tout de suite ce côté formation là-bas?
Ouais, tu le sens. Moi, je suis arrivé en U15 France, du coup, j'étais pas encore dans le centre de formation. Mm. Mais quand tu vois les U18 France et les espoirs joués, et puis tu vois les bannières en haut des mecs qui sont passés, qui sont maintenant en NBA et qui sont passés par la NBA, tu le sens direct, tu sens le niveau. Tu dis bon, toi t'es un petit U15, t'as encore le temps, mais quand tu vois le niveau déjà rien que des U18 France de l'époque, surtout à l'époque moi c'était la génération 2000-2001, Kylian Hayes, tout ça, donc tu te dis le niveau c'est quelque chose, et ils recrutent les meilleurs pour former les meilleurs justement, et tu le sens ça direct, ça.
C'est un poids pour est-ce que tu penses que ça peut être un poids pour après toi maintenant t'es à l'EAB, tu continues, t'as joué en Pro B un peu l'année dernière. On va en parler dans quelques instants. Mais est-ce que tu penses que ça peut être aussi un poids pour certains jeunes de se dire, waouh, je suis quand même dans un gros club français de basket, quoi?
Ouais, c'est possible, hein. Je pense que tout le monde n'est pas fait, n'a pas le même mental. Je pense que c'est très mental. Si tu t'arrives et que direct t'as peur, c'est possible que tu peux sentir un poids là-dessus. Après, si tu arrives avec la volonté vraiment de vouloir évoluer, tranquillement, pas après pas, ça le fait normalement, et la plupart y arrivent. Mais oui, de toute façon il y en a forcément qui se sont un peu ratés là-dessus, et qui il y a eu des moments où c'était dur, et tu sens le poids, la pression en tout cas, si tu l'as.
Et j'imagine que l'exigence quand on arrive dans un club comme Cholet par rapport à Chemillé, même si Chemillé, du coup, tu disais, ça joue à un bon niveau. Ouais. Mais j'imagine que c'est tout autre, forcément.
Parce que t'arrives à Chemillé, c'était vraiment un petit club de campagne, t'es là pour t'amuser. Mais ouais, une fois que t'arrives à Cholet, l'exigence des coachs, ça aide déjà à grandir en tant qu'homme. Mm. Mais sur le plan basket, j'y ai tellement appris là-bas.
En termes d'entraînement, tu passes de combien d'entraînements à Chemillé à combien à Cholet?
J'étais à 3 à Chemillé, ça pouvait aller à 4 si on avait un entraînement individuel quand on voulait, à un entraînement par jour.
Ouais, donc
ouais, ça, 13-14 ans,
et tu sens la différence. Déjà 4, c'est pas si mal, franchement. Pour arrêter à 4 dans un petit club, c'est, y a pas tous les clubs qui font ça.
Et puis c'est que on avait un bon groupe aussi à Chemillé. On a fait finale régionale quand on était en U15 région, et les entraîneurs avaient mis les moyens pour qu'on puisse s'entraîner autant, et ça c'était vraiment cool à Chemillé quand on y était.
T'es le seul à être allé à Cholet de cette génération là
Ouais, je crois.
Et pour gérer études et entraînement, c'est un peu l'éducateur de dans un collège qui parle là, parce que j'en ai deux trois qui jouent au basket aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est comment tu as pu gérer les deux en fait. T'arrives toujours à cloisonner, enfin vraiment à profiter de tous les moments et de gérer ça.
À l'époque où j'étais en U15 France, du coup j'ai passé deux années en famille d'accueil.
D'accord.
Parce que du coup c'était à 30 minutes de chez mes parents.
Ouais.
Donc mes parents pouvaient pas assurer les allers-retours pour aller aux entraînements, tout ça. Donc j'étais en famille d'accueil pendant deux ans, et ils m'aidaient à faire mes devoirs, tout ça, et d'avoir une ambiance familiale entre guillemets. Ça aide aussi, t'es pas juste livré à toi-même à 13-14 ans à devoir te gérer. T'as quand même encore des adultes qui sont derrière toi pour te dire à bosse, parce que t'as pas encore réussi quoi.
Ouais, bien sûr.
Et ça a vachement aidé.
Parce qu'après t'es passé à l'internat peut-être
en 2018. Au centre de formation, le centre d'hébergement où on dort tous là-bas.
Est-ce que aussi le changement, je tente d'entraînement, de passer de 3 à 4 à 1 par jour, tu l'as senti vraiment sur ton corps, en termes de fatigue ou en termes de développement pur?
Je pense en termes de fatigue sûrement, mais ça m'a pas marqué tant que ça. À l'époque, ça va, j'ai été épargné par les blessures, j'ai eu de la chance là-dessus. Mais peut-être de la fatigue, mais après, quand tu kiffes se faire ce que tu fais, Tu le sens pas et tu t'en fous.
Ouais, tu fais ça, tu sais que pour le plaisir, on va dire.
Ouais, à l'époque, c'était encore pour le plaisir. Et encore aujourd'hui, mais c'est très important. Mais à un moment donné, c'est un peu plus professionnel et tu sens que c'est différent.
C'est devenu peut-être un peu plus professionnel quand tu as rejoint l'EAB. C'était il y a deux saisons de cela, il me semble. T'as rejoint l'équipe Espoir de l'EAB. Est-ce que pour toi, il y avait une réelle importance de rejoindre une équipe Espoir plutôt que d'aller dans une N3 ou une N2 directement pour jouer en senior?
Le choix s'est fait assez naturellement parce que j'avais encore envie d'être dans un centre de formation et au niveau espoir pour me confronter aux jeunes de mon âge. J'ai pas trop pensé au niveau N3, et puis Angers, ça s'est fait aussi assez naturellement parce que ça restait c'était pas loin de chez mes parents, ça c'était vraiment quelque chose que j'avais envie. Et après pour les études aussi, Angers, j'avais tout, et donc j'ai pu faire commencer mon cursus en STAPS à l'IFEPSA.
Ouais. Et donc peut-être là où t'es encore actuellement.
Ouais, j'y suis encore. Ouais.
Et on sait que justement à Angers, là, il y a eu récemment quelques petites polémiques, je vais pas t'interroger dessus, t'inquiète, mais c'est justement, est-ce que le club t'a un peu aidé à trouver un logement sur Angers, à t'aider à ce niveau-là, comme tu prenais ton indépendance, en fait?
À l'époque, j'ai trouvé mon appart tout seul. Il y a eu quelques petites recherches avec la directrice du centre de formation, mais après, on a pas mal cherché avec mes parents, mais on n'a pas eu de mal à trouver.
Ouais, ok. Est-ce que aussi du coup maintenant une fois passé à Angers, une fois passé à l'équipe pro du coup cette année, est-ce que maintenant t'as le statut de joueur professionnel ou pas?
J'ai le statut de joueur professionnel. Ouais. Ouais.
Et ça a changé quelque chose dans ta vie, dans ta carrière?
Dans ma vie, pas forcément. J'essaie d'être pas forcément. Même depuis Espoir, au final, j'essaie de garder à peu près la même hygiène de vie. Et le même plaisir que j'en parlais avant pour jouer justement. Donc tu sens quand même que faut être plus professionnel dans tout ce que tu fais, mais après ça se fait naturellement et ça y a pas de souci. Parce que justement les centres de formation te préparent à être professionnel et ça c'est bien.
Ouais, ça c'est intéressant aussi. Et là tu arrives malgré ton statut de joueur pro, tu arrives quand même à allier les deux avec l'IFEPSA et les entraînements et toute cette routine de joueur professionnel, t'arrives à tout gérer?
Ouais, bah du coup la première année où je suis arrivé à Angers, donc bah j'ai commencé ma L1, que j'ai eu assez facilement. Et l'année dernière, bah donc j'ai commencé à m'entraîner avec les pros en Pro B. Donc j'étais à 2 entraînements par jour, mais tu vois j'étais partenaire d'entraînement. Et donc ouais, j'ai loupé pas mal de cours. Et donc j'ai redoublé. Mais là j'ai que mon premier semestre à repasser. D'accord. Et là on est sur la bonne voie pour le valider.
Parfait.
C'est bien parce que j'ai fait 3 ans à l'IFEPSA. J'ai fini l'année dernière. Moi, je t'ai jamais vu à l'IFEPSA.
Ah ouais, c'est possible. Ouais.
Je savais pas du tout que j'en sors de l'année dernière, moi. Ouais. Okay.
Parce que t'étais en quoi?
En PEPS. J'ai fait 3 ans en PEPS.
Ok.
Les anciens de l'IFEPSA. Enfin, un ancien et
un
actuel de l'IFEPSA.
J'étais de retour à la salle de l'IFEPSA il y a 1h30. Hein.
Ah, ok.
Je passe de temps en temps.
Il n'y a pas un emploi du temps aménagé quant à le statut de joueur professionnel?
Si, bah, justement. Enfin, c'est pas un emploi du temps aménagé, mais il te laisse assez libre sur. En fait, t'as une classe définie et t'as le statut de joueur professionnel qui te permet d'avoir une dispense d'assiduité et donc de louper tous les cours que tu veux. Mais imagine, avec ma classe, on a un cours sur l'heure d'entraînement. Si j'arrive à trouver une classe qui a le même cours que moi à une autre horaire, bah je peux y aller. Et donc ça, après, c'était bien. Vraiment moi qui devais gérer. Plus j'y arrivais, plus ou moins.
Bon, après, ils ont l'habitude aussi de gérer sur les choses. Ouais, forcément, ça aide aussi beaucoup.
Ouais, forcément, ça aide. Les profs sont vachement.
Il devait y en avoir d'autres, des élèves un peu faire en plus, j'imagine.
Ouais, je pense que oui.
Mais surtout, je pense qu'en STAPS, c'est forcément l'endroit où ils ont l'habitude. C'était dans d'autres études, ça doit être plus rare.
Là, vu que c'est dans le sport, franchement, c'est.
Ton année de Pro B, l'année dernière, tu parlais d'être partenaire d'entraînement. Ça a forcément créé c'est une énorme année d'apprentissage pour toi, je pense.
Vachement. Bah ouais, t'apprends pendant toute une année avec vraiment des professionnels et je pense que l'année dernière dès que tu commences à t'entraîner avec des professionnels, la marge de progression tu la sens. Et je pense que en un an j'ai énormément progressé, donc je regrette pas d'être passé par là, même s'il y a eu des moments où c'était un peu dur.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux dans cette année?
Le niveau physique. Physiquement, physiquement tu le sens. Et justement, je pense que grâce à ça, physiquement, je suis devenu plus dur, sans avoir forcément pris 10 kilos de muscle ou quoi. Mais tu t'habitues à tous les jours défendre sur des ricains qui vont plus vite que toi, qui sont plus costauds que toi. Et ça, forcément, tu t'y habitues et ça, c'est bénéfique, quoi.
Ouais, t'as pu faire 2 apparitions en match la saison dernière. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu les as vécues, ces 2 apparitions?
Je les ai vécues vraiment juste comme une opportunité. Aucun stress, juste tente. Parce que si t'es là, tu fais rien, forcément, tu vas rester là où t'es. Donc non, franchement, dès que j'ai eu un ballon, tu vois, j'ai eu mon premier ballon, c'était contre Orléans. J'ai tiré, j'ai marqué, c'était bien. Et après, tu vois, je me suis pas arrêté. Je remercie. Bon, ça a été un cours de circonstances parce qu'il y a eu pas mal de blessés, mais je remercie quand même Ali Bouziane l'année dernière de m'avoir lancé sur certains matchs. C'était cool.
Ouais, ça a forcément apporté quelque chose. Tu disais que quand t'as affronté les ricains qui vont plus vite que toi, ça t'a donné aussi l'envie à l'entraînement de trouver des petits tips, de trouver des choses qui vont pouvoir améliorer ce démarrage.
Et puis forcément tu leur demandes, tu vois, ce qu'ils bossent et t'essaies de le reproduire. Par exemple en salle de muscu, qu'est-ce qu'ils font comme exo, même comme petits exos avant l'entraînement pour essayer de trouver des petits trucs pour s'améliorer tous les jours, quoi.
La saison dernière, c'est qui le joueur le plus dur à garder en Pro B?
Dans l'équipe?
Ouais.
Je sais pas, je défendais pas tous les mêmes, mais je défendais souvent sur Brandon Avrette. Et il était tout petit, il faisait 1m75. Mais par contre, il avait une vitesse. Oh la vache. Et puis quand t'arrivais pas à le défendre et qu'après le coach il te gueulait dessus, c'est gros, je peux pas faire mieux.
J'ai une question qui me vient quand t'es arrivé à l'EAB. En fait, j'ai vu une interview de Zachary Zaché, on lui a posé. Je me suis dit, j'allais te poser la même. Ouais. Est-ce que t'as eu un petit bizutage quand t'es arrivé à l'EAB? On sait que les petits jeunes, quand ils arrivent, souvent, il y a un petit truc. T'as eu ça ou pas?
Ouais, avec Noah, justement, c'est notre première année, tous les deux. Et quand on a fait le déplacement à Toulouse, je crois que c'était il y a un mois et demi, on est allé au resto le jour même où on est arrivé. Et on a dû se mettre debout et chanter une chanson devant tout le monde.
La classique.
La classique, ouais. Okay. Je l'avais déjà fait à Cholet. Bon, c'est la classique. Ouais.
T'as sorti quoi,
ça va, c'est la classique. Oui, oui, ça va.
T'as sorti quoi comme son?
Je sais plus, je sais même plus. Je crois que si la musique de LG Mano, mais je sais plus c'est quoi le. Bah si, c'est LG Mano de je sais plus qui.
De la Mano.
Ouais, c'est ça, de la Mano.
Okay. On te demandera pas de
le spécialiste. Ah, des... je pourrais la mettre en pause musicale.
Ouais. On va la mettre, on va la trouver et on va la préparer. Là, donc, t'as cette saison qui a démarré là depuis quelques mois maintenant. C'est cette expérience de Pro B avec ces deux matchs, puis avec ce côté partenaire d'entraînement. Tu sens que ça t'a fait passer un step dans ta jeune carrière là, et ça t'a apporté cette expérience pour les matchs de N2.
Excuse-moi. Ouais, ça m'a vraiment aidé parce que tu t'entraînes tous les jours avec des pros, donc petit à petit tu te dis moi aussi je peux être professionnel, et donc là c'est un peu le cas sur le début de la saison, et c'est bien. Je fais partie du coup des jeunes avec Noah, on est deux petits jeunes à commencer notre carrière, mais en tout cas on a peur de rien, on tente, on montre ce qu'on sait faire, et puis on essaie de gagner notre place, de gagner le temps de jeu qu'on pense mériter, et petit à petit ça va payer.
Tu dis moi aussi je peux être professionnel. Est-ce que t'as, à un moment donné, tu te dis, t'as douté, ou tu t'es dit, beaucoup de sportifs ont ce syndrome un peu de l'imposteur, de se dire, j'y suis arrivé, mais pourquoi moi? Ouais. Tu t'es posé ces questions-là?
Il y a eu un moment, à Cholet, j'ai eu ma dernière année U18 avant que je parte pour arriver à Angers. Ça a été une année assez compliquée, parce qu'on revient sur ce que tu disais au début, il y a eu un peu cette pression. Je pense que je me suis mis trop de pression sur ma dernière année U18 à vouloir absolument prouver, montrer des choses pour rester en espoir. Au final, ça m'a joué des tours. Et donc, ça a été plus négatif que positif. Et donc, il y a eu un moment où ça a été assez dur, basketement parlant, et où je pense que j'étais pas loin d'arrêter, parce que c'était assez compliqué. Mais une fois qu'on t'a annoncé que t'étais pas gardé, c'est limite là que la pression elle est retombée. Et que la fin de l'année, ma dernière année 18, ça s'est super bien passé. Et après, une fois arrivé à Angers, j'y suis arrivé sans trop d'ambition. Mais petit à petit, en reprenant le plaisir de jouer, tu te dis pourquoi pas.
Ouais, on a l'impression que c'est un peu l'essentiel de tout. En fait, c'est la base de tous les sportifs et de beaucoup de sports, c'est le plaisir, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, mon père, il me le dit à chaque fois, à chaque match, tu vois, il m'envoie un message. Il me dit surtout, juste prends du plaisir. Et après, le reste, on s'en fout.
Ouais,
j'avais un coach qui répétait ça aussi.
Non, mais c'est impressionnant et c'est important, je pense que.
Ouais, et puis, une fois que tu l'as intégré, tu te dis, c'est juste. Enfin, c'est un jeu, quoi.
Ouais. Donc,
faut garder un peu son âme d'enfant là-dessus.
Ouais. Quand on voit toute la pression qu'il peut y avoir à ce niveau-là, etc., c'est tu perds ça, en fait. Derrière, tu perds, tout.
C'est ça. Surtout à Cholet, où on te met une grosse pression sur les résultats. Parce que. Je crois que sur ma dernière année 18, on perd deux ou trois matchs. Mais à chaque fois qu'on perdait, c'était limite un scandale.
T'aimais pas être à l'entraînement le lendemain.
Ouais, t'aimais pas être à l'entraînement. C'était dur. Donc, tu te dis, faut pas qu'on perde, quoi.
Ouais, t'as une exigence sur la formation aussi là-bas.
C'est ça. Où tu te dis, la pression, tu te dis, si on gagne pas, t'es dans la merde, quoi. mais ça forge.
Pour
derrière, tu t'en sers de ça.
Ouais, bien sûr.
Ouais, ça vous fait avoir un mental de compétiteur, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Et est-ce que si cette année du coup le passage en N1 il s'est fait notamment du fait qu'il n'y ait plus l'équipe Espoir à l'EAB, est-ce qu'à un moment t'as eu dans ta tête un choix entre N1 ou N3, est-ce que le coach John Delay te l'a proposé ou pas?
Je crois que c'était sur le dernier entraînement de l'année, donc Ali Bouziane, l'entraîneur de l'année dernière, sur les 5 derniers matchs il est parti pour une autre équipe, et donc c'est John qui a repris le coaching de l'équipe, et sur le dernier entraînement où il y avait plus de matchs à jouer, il m'a dit qu'il aimerait bien qu'on discute pour pouvoir parler du projet de l'année prochaine, donc ça s'est fait assez naturellement et assez rapidement, donc j'ai même pas eu le temps de penser à si je devais changer de club ou jouer en N3, donc ça c'était bien.
Ouais, t'avais envie naturellement de jouer en N1, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est lui qui est venu vers moi, donc là-dessus, c'est. Ouais, y a pas eu de choix à faire.
Et d'ailleurs, tu vas pas dire non, je préfère jouer
en N2 ou autre part. Ouais, c'est ça. Puis je lui ai dit, moi je suis extrêmement chaud sur le projet, quoi.
Et puis là aussi, pour la confiance, je pense que ça fait du bien aussi de ressentir la confiance du club et du coach.
Par rapport à la saison que j'ai fait l'année dernière, c'est un peu. Enfin, ça te montre un peu la gratitude que le club a envers toi. Et donc, c'était cool.
Je pense que.
On va faire la petite pause.
Voilà, ça. Après, on passera à la saison de l'EAB en général.
Ouais.
Et du coup, on va s'écouter El Remano de Genesio et de la Mano. C'est parti sur le 101.5 de Radio G.
Qui j'en veux encore? Qui j'en veux encore? Elle fait que me téma, elle fait que me téma. Pas d'histoire de cœur, elle va me donner son corps.
Oh là là, putain, c'est chaud, baba. Je rêvais d'une baraque à la Obama. Dehors, c'est chaud, baba. Cache, kiff, moulala.
J'peux pas dodo comme un koala. Avant la zik, un voyait comme un dolala. Aujourd'hui, elle revient, mais c'est chaud, baba. Tu connais mon name? Depuis que j'suis dans les jazz, j'suis dans la plaque. J'me roule un spliff, c'est la routine, c'est ça qui nous plaît. Avant elle me calculait pas en DM, maintenant c'est sur mon bangala qu'elle veut monter. Jamais je m'associe avec des mythos et tous les jours la monnaie m'appelle sur mon tel. Essaye même pas de faire demi-tour, on va te choper, enculé, descendre la moto. Minuit 22, je la ramène à l'hôtel et je la fais ronronner comme le bruit du moteur.
T'es terre comme Mandela, ambitieux comme Magellan. Sauf que je vise tout là-haut, je rêvais de m'éloigner de là. Reddy Doudaï c'est ma vie, oui, je reviens de loin tout comme 50. Faire que du sale c'est ma vie. On se fait la guerre pour ma région. Oh là là, putain c'est chaud baba. Je rêvais d'une baraque à la Obama. Dehors c'est chaud baba. Cache, kiff, moulala.
Qui s'en va encore? Qui s'en va encore? Elle fait que me téma, elle fait que me téma. Pas d'histoire de cœur, elle va me donner son fort.
Oh là là, putain c'est chaud baba. Je rêvais d'une baraque à la Obama. Dehors c'est chaud baba. Cache, kiff, moulala.
Qui s'en va encore? Qui s'en va encore? Elle fait que me téma, elle fait que me téma. Pas d'histoire de cœur, elle va me donner son corps. Gra, 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 boum. Wesh, 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 wesh,
wesh, wesh,
des claques et des claques, je sers des craques et des craques. C'est temps que je suis, ma santé se dégrade. Au PPS, on va viser ton crâne. Je suis miel avec Maya. Je suis miel avec Maya. F49 floqué derrière le maillot. Genesio, la mano, envoie la maillot. Wesh, frérot, y'a quoi? Frérot, y'a quoi?
On fait plein d'abandons d'abois. C'est nous les chasseurs, toi t'es la proie. Ils font les bégués, ils font pas le poids. C'est des jaloux, jaloux. Jaloux, jaloux. Ils vont finir en gaou, gaou.
C'est tous des comiques. C'est tous des comiques, un jour t'acclame, un jour ça lance des tomates. Pour la juge, le baveux n'est jamais commis. Si t'as les couilles common, pourtant j'ai pas besoin de canon. J'suis chargé, j'ai fait ce qu'il a pris quatre canines. Je me retrouve pas même si la copine est canon. Actif, tu peux pas finir en paire. J'fais moins de 5 minutes dans la part. On garde rien, on revend tout après. Si t'es réglo, bah t'auras ta part. J'en ai plus le départ. Donc j'en bâtis un empire. Ce que tu fais, on l'a déjà fait en plus.
Je n'ai pas peur si la mano parle, ça parle un peu partout. On est prêt pour cible un peu comme Tupac, ça nous démate partout. Nombreux comme chez Apu, pour eux je suis prêt à tout. Je n'ai pas peur si la mano parle, ça parle un peu partout. Wesh, 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 faut pas wesh. Les gens rien c'est que des légendes. Tout ce qu'ils proposent c'est léger, donc faut pas wesh. Wesh, wesh, faut pas wesh. Tout ce qu'ils proposent c'est léger. Il faut une quiche t'as de baiser.
Wesh, frérot y'a quoi? Frérot y'a quoi?
On fait plein d'abandons d'abois. C'est nous les chasseurs, toi t'es la proie. C'est nous les chasseurs, toi t'es la proie. Wesh, 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 faut pas wesh.
El Remano de Genesio et la Mano sur le 101.5 de Radio G. On est toujours avec notre invité du jour, Matteo Vuitton, pour parler de NBA pas encore, mais on va parler de N1, la saison de N1 de l'EAB.
Bah ouais, cette saison qui a un peu mal commencé, voilà, merci, j'avais pas envie de dire une expression familière. Mais oui, du coup, quel était un peu
mal embarqué, on peut dire.
Mal embarqué, voilà, c'est ça que je cherchais exactement.
Mal embarqué.
Mais du coup, c'était quoi un peu l'objectif fixé par le coach au début de saison?
Bah, pour l'instant, bah du coup là au classement on est 12e, mais l'objectif c'est, ça aurait été de, je sais pas, j'espère qu'on va pouvoir quand même essayer de l'accrocher, mais l'objectif c'était le top 7 parce que on est à deux poules de 14 en M1. Et donc si t'es dans le top 7 dans les 7 premiers de ta poule, après t'es en poule haute et donc tu peux essayer d'accrocher les playoffs. Donc là ça aurait été et puis ça t'assure le maintien directement, donc c'était ça l'objectif. Pour l'instant on n'a pas atteint l'objectif, donc il reste encore pas mal de matchs, donc on va voir, mais ouais, c'est sûr que on n'est pas là où on aurait voulu être.
Et l'objectif du coup il a pas changé entre temps en voyant les résultats?
Non, après on est réaliste sur le fait que on est 12e et que c'est possible qu'on reste à cette place-là et sur la deuxième moitié du classement. Mais après maintenant l'objectif c'est vraiment de gagner. On fait match après match et on essaie d'en gagner le plus comme depuis le début de la saison, quoi.
Ouais, et un peu d'après toi, qu'est-ce qui s'est mal passé dans votre jeu ou peut-être dans le vestiaire ou je sais pas pour
C'est dur à dire parce que il y a beaucoup de matchs qu'on a laissé passer des fins de match. Justement, on perd deux fois en prolongation contre Toulouse et Fougères. On perd deux fois de 6 points chez nous contre Lorient et Tours. Donc tu vois, c'est des matchs qu'on perd de pas beaucoup, mais si tu les gagnes, ça change la donne. Donc c'est plus sur la gestion des fins de match qu'on on a eu du mal à gagner certains matchs qui auraient pu nous faire changer ce début de saison.
Ouais, c'est dommage, c'est parce qu'on a vu ce week-end, j'ai envie de dire, où vous avez fait un super dernier quart-temps.
Ouais.
Vous y avez cru jusqu'au bout.
Ouais.
Ouais. Malheureusement, c'est pas le cas tous les week-ends. Ouais. Parce qu'en plus, en regardant un peu les stats de l'équipe, j'ai vu que vous étiez une des équipes qui a encaissé le moins de votre pool. C'était la cinquième défense.
On a une super défense. Après l'adresse. D'un match à l'autre ça s'en va, mais en tout cas en défense on est une équipe qui aime défendre. Et maintenant en attaque je pense qu'on a encore une équipe qui se cherche encore. On essaye à l'entraînement tous les jours de régler ce problème là,
C'est une volonté du coach d'être une équipe qui joue beaucoup, qui joue dur, qui joue sur la défense.
Ouais, et puis c'est un peu ce qui nous a fait défaut contre les Sables. On est une équipe qui a besoin d'être intense et dure. Et contre les Sables, on l'a payé cash sur la première, pendant les trois premiers quart-temps et jusqu'au quatrième, quoi.
C'est pas si loin encore, il reste une dizaine de matchs avec celui de jeudi soir. Est-ce que tu sens que c'est juste pour l'instant un manque de chance? Si ça tourne, ça peut tourner en votre faveur et qu'une petite dynamique de 3-4 victoires consécutives peut vous relancer aussi.
Ouais, nous c'est ce qu'on espère. Il y a deux semaines on avait gagné contre Rennes, on pensait que ça nous avait peu relancé. C'est vrai qu'on aurait aimé gagner contre les Sables parce que ça nous aurait fait deux victoires d'affilée et puis enchaîner normalement avec l'INSEP où c'est les derniers du classement, c'est des jeunes, on est censé gagner. C'est sûr que ça peut, on attend d'avoir une dynamique de plusieurs victoires pour je pense nous lancer, et malheureusement c'est ce qu'on l'a pas eu en début de saison et je pense que c'est ce qui nous a fait défaut. On avait perdu contre le Pôle France là-bas et on avait enchaîné une défaite contre le Valois quelques jours après, et c'est sûr que je pense que une victoire sur ces deux matchs là ça nous aurait fait
du bien.
Ouais,
on a l'impression que vous courez après ça en fait. Ouais. Courez après cette dynamique positive.
Ouais.
Parce que chaque semaine avec Faustin suit et donne vos résultats de l'EAB. C'est l'homme basket de Génération Sport et de Radio G. Mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que quand on en parle ensemble, on sent que c'est juste ça, c'est juste cette dynamique. Et c'est ce que vous dit votre coach aussi, je pense.
Ouais, c'est ça. Et puis parce que, en plus, on perd pas, à part, je crois que sur les 15 matchs là qu'on a fait, il y a deux ou trois matchs qu'on perd de plus de 10 ou voire 20 points. Mais sinon, sur les défaites qu'on a, on est toujours en dessous de 10 points, on est pas loin.
Donc c'est vraiment, juste ce petit facteur chance, il faut que la pièce tombe du bon côté, quoi.
Ouais, c'est ça. Après, maintenant, le facteur chance, c'est nous. C'est à nous de faire le boulot là-dessus.
Quel regard tu portes sur ta saison, toi, en N1?
Pour l'instant, assez positif par rapport au temps de jeu que j'ai. Malheureusement, je me suis blessé à la cheville en début de saison. juste après le premier match contre Fougères, donc ça m'a arrêté un mois et demi, donc ça m'a un peu fait mal, mais ça m'a, comment dire, je suis assez bien revenu de ma blessure et on a eu de la chance, il y a eu quelques blessés, puis on a eu un problème avec l'Américain qui était resté bloqué aux États-Unis, donc ça m'a permis d'avoir un peu plus de temps de jeu et de me montrer et je pense que John, le coach, ça lui a fait plaisir de voir ce que j'ai pu faire et assez positif sur le début de ma saison, on va dire.
Ouais, est-ce que aussi dans ta saison perso, t'as un peu les cadres de l'équipe qui te prennent sous ton aile pour te former à ce monde professionnel?
Ouais, bien sûr. Après j'ai toujours été un peu comme ça. J'essaie, tu vois, de rester dans mon coin, d'écouter. Pas avoir peur et de parler quand j'ai quelque chose à dire, mais je suis là à écouter en tout cas ce qu'on me dit, chaque conseil je le prends et j'essaie de l'analyser pour que ce soit un conseil constructif que je puisse l'utiliser pour moi, quoi. Mmh.
Tes objectifs à titre perso au début de saison déjà, c'était quoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu te fixes pour la fin de saison maintenant aussi après ces trois premiers mois?
Y a pas de truc précis, mais dès que je rentre sur le terrain, c'est apporter ce que je sais faire. Et sur la fin de saison, voir déjà ce que je fais. Mais si je peux retrouver déjà, parce que j'ai signé pour un an. Retrouver un club moyen, voire même rester sur Angers, moi ça me plairait, donc c'est ça un peu l'objectif de la saison.
On croise les doigts pour que Angers reste en N1,
évidemment.
Et c'est important d'avoir un club masculin aussi comme le AB qui reste dans un niveau professionnel, qui reste dans cette antichambre de la Betclic et de la Pro B, quoi.
Ah ouais, justement, est-ce que un autre club qui marche bien à Angers, c'est l'UFAB. Vous jouez en plus dans la même salle à Jean-Bouin. Est-ce que vous sentez l'impact des très bons résultats de l'UFAB, même en ce début de saison? Est-ce que vous sentez, du public qui vient plus que d'habitude ou ce genre de choses?
Pour nous, je sais pas trop. Là, je sais que sur nos derniers matchs contre Rennes, la communication avait été très bonne et donc on avait eu pas mal de monde. Après, c'est sûr que je pense qu'il y a plus d'engouement pour l'UFAB parce que je pense du coup elles sont au meilleur niveau français et c'est un peu un club historique d'Angers qui a toujours été à peu près à ce niveau. Donc, pas vraiment.
Pas tant d'impact sur la cohabitation à Jean-Bouin.
Non, mais on s'entend très bien, on se croise avec les filles quasiment tous les jours aux entraînements.
Ouais, est-ce que vous entraînez uniquement à Jean-Bouin? Vous n'avez pas d'entraînement dans
le stade? Non, on s'entraîne qu'à Jean-Bouin.
Ok. Ouais. Et ensuite, pour cette suite de saison, est-ce que tu penses que vous allez réussir à réagir après cette trêve, en lançant une dynamique avec le match contre l'INSEP?
On l'espère en tout cas. C'est, de toute façon, on pense qu'à ça, à chercher la dynamique pour inverser la tendance. Parce que, comme on l'a dit, si on arrive à inverser la tendance et qu'on gagne pas mal de matchs là, sur la dizaine de matchs qui nous reste, on peut peut-être accrocher le top 7. Hein, donc, c'est l'objectif. Maintenant, il faut qu'on reste réaliste sur le fait que il nous reste des grosses équipes à jouer et que on va peut-être jouer le maintien en deuxième phase, quoi.
On rappelle à nos auditeurs de Radio G que nous sommes avec Mathéo Valton, joueur donc de l'EAB. Toi, tu évoquais ton envie de rester à Angers. Est-ce que tu sens aussi que cette vie angevine t'épanouit aussi en tant qu'homme, afin d'être aussi performant aussi en tant que joueur?
Ouais, franchement, la ville, moi je kiffe de fou. Depuis que j'ai commencé mes études et que je suis arrivé en espoir il y a 2 ans. Tu vois, j'ai mes amis ça m'aide à penser à autre chose qu'au basket dès que j'ai l'occasion entre guillemets de voir mes potes, de faire autre chose en restant pas en sortant
non bien sûr pas vu.
mais juste de voir mes potes, d'aller boire un verre et tout, franchement ça tu penses à autre chose qu'au basket et ça fait du bien. Donc la ville est super agréable. C'est moi je kiffe de fou.
Après t'es du secteur en plus, t'es de la région, donc forcément Ouais, t'es du département, donc forcément tu connaissais déjà un peu Angers, mais voilà, ouais. En tant que ouais. C'est important aussi, je pense que
un cadre de vie,
un cadre de vie, ouais.
Et c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas forcément énormément de joueurs, de jeunes joueurs comme ça, qui ont eu la possibilité de tout le temps rester proche du cercle familial. Ouais. Et toi, que même si t'es parti en famille d'accueil, t'étais pas loin de chez toi. Ici, t'es encore très proche. Mais ça, franchement, je pense que c'est un avantage, surtout quand on est encore jeune.
C'est vraiment un avantage. Et puis moi, c'est quelque chose que je cherchais. Donc ouais, c'est vraiment un avantage. C'est pour ça que si je peux rester quelques années là encore à Angers,
le temps d'apprendre encore.
Ouais, c'est ça. Je vais pas me priver parce que je sais que j'ai encore des choses à apprendre. Et puis après l'objectif c'est de monter. Hein. Si j'ai l'occasion d'aller en Pro B et puis après en Betclic dans quelques années, je vais pas me gêner. Mais ouais, pour l'instant là le cadre de vie pour moi c'est assez important, surtout vu que je suis encore un peu jeune et je pense que je le sentirai quand ce sera le moment de peut-être partir et d'aller découvrir autre chose.
On rappelle à nos auditeurs que tu as 20 ans.
Hein, ouais, c'est ça, j'ai 20 ans.
Parce que 2004, donc. Ouais. Et donc, t'as encore le temps de continuer à apprendre. Ah, c'est vrai que le basket, en plus, on peut jouer longtemps. Il y a des joueurs qui, à plus de 30 ans, font encore des très très belles carrières, même plus de 35.
Oh, il y en a un à 40 ans.
Ouais, ouais. Non, mais.
Pas encore.
Mais en N1, Pro B, Pro A, voilà, il y a des très très bons joueurs à plus de 30, ouais. Plus de 30, 35. Donc. T'as encore du temps.
C'est ça.
Moi, c'est bien d'avoir aussi la tête sur les épaules comme ça et de se dire, il y a encore des choses à avancer. Faustin, des questions encore sur la suite de la carrière de Mathéo?
Moi, j'avais une petite dernière question sur comment tu fais ta suite de ta saison personnellement. Si tu veux ton temps de jeu augmenter, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites ou alors t'es amplement satisfait de ce que t'as actuellement?
Moi, je reste assez patient sur le fait que il y a eu des matchs où j'ai pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, mais après ça c'est normal. Je suis pas dans les cadres de l'équipe. Maintenant, j'espère avoir un peu plus de responsabilité et puis je bosse à l'entraînement et puis tous les jours pour grappiller quelques secondes, quelques minutes de temps de jeu en plus. Donc ouais, ça va quand même être un objectif pour la deuxième partie de saison. Après je reste patient. Je sais que il y aura des jours où j'aurai la chance de montrer et d'autres où il faudra que je reste sur le banc à encourager, mais ça fait partie du jeu aussi.
Tu fais confiance à ton coach.
Ouais, c'est ça, je fais confiance. Je me fais confiance aussi à moi sur le travail que je fournis et un jour ça paiera.
Okay. C'est bien, c'est très très bien. Maureen, une dernière question? Non.
Non, pas spécialement.
Je sais que t'en as une autre qui va arriver dans quelques instants.
J'en aurai une autre.
Pour Mathéo, on va te lancer là-dessus. Merci en tout cas Mathéo d'être resté avec nous. Ouais, on va suivre avec attention la suite de la saison de l'EAB dès jeudi avec le match contre le Pôle Espoir, mais aussi la suite de la saison et en espérant que Angers se maintienne en N1. C'est important aussi pour le sport angevin d'avoir une équipe masculine à un très bon niveau. On croise les doigts pour vous en tout cas.
Merci.
Amaury, on va parler NBA forcément avec Mathéo, on en profite qu'il est là aussi pour avoir son avis.
Oui, exactement, à commencer cette chronique internationale par le dilemme qui se présentait à nous samedi soir. D'un côté, regarder Miss France et essayer de comprendre pourquoi Miss Aquitaine n'a pas été au moins en finale. Et de l'autre, regarder les meilleurs basketteurs de la planète tout en se disant qu'à 3h du mat, ça y a de la fatigue. Moi aussi, j'aurais peut-être pu contrer Giannis. Bon, pour Miss France, on attendra l'année prochaine. Pareil pour Houston et Atlanta qui devront retenter leur coup dans un an pour accéder à la finale de la NBA Cup à Las Vegas. Les Bucks d'un certain Giannis Antetokounmpo en mode bulldozer ont dominé les Hawks 110-102 pendant que OKC a tranquillement expédié Houston à la maison 111-96. Rendez-vous ce soir donc à 2h30, un café dans la main pour ce Bucks Thunder et connaître le successeur des Lakers dans cette NBA Cup. Mathéo, c'est le moment où je me tourne vers toi, tu passes du joueur au consultant. qui vois-tu soulever le trophée ce soir entre Bucks et Thunder?
Moi, mon avis est un peu faussé parce que je suis un fan des Bucks. C'est l'équipe que je suis le plus en NBA, donc moi je mets ma pièce sur les Bucks et Giannis.
Faustin,
moi depuis le début j'avais dit les Bucks. Je suis pas spécialement fan des Bucks, moi je suis fan de Toronto, mais là je les vois plus gagner.
Mon avis c'était les Knicks, donc ils se sont fait.
Depuis le début tu les aimes bien les Knicks?
Mais j'adore les Knicks depuis le début de la saison, je mets beaucoup ils se sont fait refroidir par Trae Young, après au vu de la saison et au vu ce qu'on disait en off tout à l'heure, je trouve que le Thunder depuis qu'ils ont retrouvé un intérieur assez imposant, je trouve que c'est plus la même équipe. Il n'y aurait pas eu Hartenstein ou il y a Holmgren qui est blessé. Mais s'il y avait ni l'un ni l'autre, j'aurais mis les Bucks. Mais là, il y a un intérieur, il y a quelqu'un qui va prendre du rebond dans la raquette. Même si, en face, attention, il y a du costaud. Mais je vois le Thunder ce soir.
Et moi, je vais te suivre sur le Thunder. Alors, on a parlé dans l'émission NBA un jeudi dernier qu'on fait sur Twitch aussi. Ouais. Moi, je vois un Thunder capable de défendre sur les extérieurs des Bucks, les mettre grandement en difficulté. Pourquoi pas un Giannis qui met beaucoup de points à l'intérieur quand même. Mais donc le Thunder qui gagne de cette manière.
Je serais curieux d'avoir la réaction de Mathéo sur la saison de Damien Lillard du côté des Bucks. Parce que c'est vrai que on s'attendait à autre chose avec son arrivée du côté de Milwaukee. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Bah, moi, que l'année dernière, quand il est arrivé, j'étais extrêmement hypé. J'étais trop content parce qu'en plus, je kiffe de fou Damien Lillard. Donc, Lillard Giannis, moi, ça me plaisait beaucoup. Mais il n'a pas eu les résultats espérés. Donc, il est un peu en dents de scie. Des fois, c'est très très bien, d'autres fois, c'est cata. Mais ça reste un très gros joueur, donc ça peut forcément.
Et j'ai envie de dire que depuis 3 semaines, Lillard est sur une bonne phase, même si on sait que défensivement, c'est pas son point fort. Mais je trouve que depuis 3 semaines, il est quand même sur une phase bien mieux qu'en début de saison où c'était vraiment vraiment alternatif et des fois dans le très mauvais.
Ouais, mais le problème des Bucks, on l'avait dit dans l'émission. Enfin, moi, c'est mon avis, c'était le fait d'avoir des comptes, il y a des joueurs sous contrat qui te prennent beaucoup de la masse salariale, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être faire le jeu des trades pour accompagner réellement Antetokounmpo et Lillard pour recréer quelque chose, parce que bon, au final, ils seront dans les 8, enfin, dans les 8, non, enfin, vraiment. Ils seront dans les 10, et après, il y aura le, comment dire.
Dans les 6.
Ils seront dans les 6, mais il y a. Non, toi, tu dis dans les 6, toi? Dans les
6. Ah oui, moi, je pense aussi dans les 6.
Ok, d'accord. Bon, ben, on verra. On en reparlera un jeudi soir dans l'émission. En tout cas, donc sur Twitch de la NBA de Génération Sport. La suite avec toi, Maurice.
La suite, bon, on va rester à parler basket, hein, vu que c'est le thème de l'émission. Ben on va pouvoir parler d'Euroleague et de Paris qui a enfin perdu. Alors, je sais pas si enfin c'est le bon mot, mais Paris s'est incliné.
Pour Faustin, du coup.
Paris s'est incliné pour la première fois depuis le 17 octobre en Euroleague. Hein. On peut être déçu pour le club de la capitale, mais si je vous dis que c'est face à l'ASVEL, un autre club français en Euroleague, bah, déjà, ça peut nous consoler. Donc, Paris reste leader d'Euroleague tout de même, avec Monaco qui est deuxième. Et l'ASVEL qui était un peu plus loin, bah, revient et devient le seul club français, seul club européen capable de battre Paris, donc ça fait plaisir. On va passer sur du foot un petit peu aussi, la Ligue 1, un très beau week-end de football, hein, des chocs, du jeu, mais un arbitrage pas à la hauteur sur toute la journée.
Il voulait la placer, celle-là.
Mais j'ai regardé deux matchs qui ont été compliqués au niveau de l'arbitrage, donc je voulais le placer. Mais déjà, un premier, un premier choc, ça commençait entre Saint-Etienne et Toulouse, un choc de bas de classement, mais qui était important pour les deux, et un choc qui a été fatal à Olivier Dalloglio, l'entraîneur de Saint-Etienne, défait 2-1 par Toulouse et démis de ses fonctions juste après. Des Verts qui sont pour l'instant 16e de Ligue 1. Samedi avait lieu un choc, cette fois-ci en haut du classement entre l'OM et le LOSC, score final 1-1 dans un match riche en occasions et qui aurait pu basculer dans les deux sens. Auxerre, de son côté, a obtenu le nul 2-2 face à Lens après avoir été mené 2 fois au score, pendant que Reims et Monaco se quittaient sur un 0-0. Dimanche, match à rebondissement encore une fois entre Montpellier et Nice, 2-2. Victoire de Brest, 4-1 contre Nantes. Strasbourg, 3-0 contre le Havre. Et le Rennes, on a parlé rapidement en début d'émission, 2-0 contre le SCO. Et enfin, le match du dimanche soir entre le PSG et Lyon a vu s'imposer 3-1 le PSG, malgré un but lyonnais sur une passe décisive de Cherki à l'aveugle, qui a dû réjouir Mathéo et Alex présents la semaine dernière. C'était magnifique, mais ça suffit pas pour les Lyonnais qui perdent 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que autour de la table, vous avez pu regarder un petit peu ces matchs? Flo, je me tourne vers toi. Peut-être Lens.
J'ai vu Lens, exactement. J'ai vu Lens, j'ai vu Paris. J'ai vu un peu Saint-Étienne-Toulouse. Donc, j'ai vu pas mal de foot ce week-end. Bon, après pour Lens, tu l'as dit, ils mènent deux fois au score. Après c'est un peu le problème de la saison. Quand ils mènent au score, ils ont toujours du mal à le garder, ce score. Mais c'est une des meilleures défenses du championnat. Je pense que les supporters seront contents. Et l'objectif, c'est de finir dans les places européennes. Donc, pour l'instant, ils sont pas très très loin. Donc, c'est le plus important. Après, Paris, ils sont trop forts en Ligue 1. Donc, maintenant, tu t'attendais vraiment à un match différent. Je pense que Lyon est vraiment passé un peu à côté de son match. Ouais. En tout cas, dans l'entame.
Lyon a fait 30 minutes, quoi, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, et je te rejoins aussi. Il y a peut-être des décisions arbitrales qui devraient être un peu revues. Enfin, revoir ce système de VAR. Enfin voilà, maintenant, mais bon, ça fait, on pourra en parler chaque semaine et malheureusement, c'est ce que je, c'est ce qu'on se disait en off.
Oui.
Malheureusement, ça changera jamais parce que il y a pas une réelle envie de se remettre en question.
Et moi, j'ai envie de dire les deux matchs que j'ai regardé, donc Lyon-Paris et OM Lille. Finalement, les scores à la fin du match, malgré l'arbitrage qui peut être remis en cause,
sont logiques.
J'ai l'impression qu'ils reflètent quand même plutôt bien les matchs. Mmh. Paris a dominé son match. Marseille-Lille aurait pu tourner dans les deux sens en fonction de si les équipes avaient mis leurs occasions. Finalement, un match nul, c'est plutôt logique. Mais c'est vrai que c'est toujours dommage de voir.
Ça me fait une question pour Mathéo. Alors, arbitrage, mais est-ce que, au club, est-ce qu'on vous parle un peu d'arbitrage? Est-ce qu'on vous apprend à garder votre calme? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Non, mais dans le monde professionnel, est-ce qu'on. On aborde cette question-là.
Ouais, vachement, parce que je pense que dans tous les sports, surtout au niveau professionnel, l'arbitrage, c'est plus ou moins. Voilà.
Ouais, mais il y a tellement d'enjeux.
Ouais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup d'enjeux que tu peux vite t'emporter.
Ouais.
Maintenant, John, notre coach, il nous en parle quasiment à tous les matchs. Les gars, c'est moi qui gère, vous taisez. Et même aux entraînements, ça fait partie du jeu. Des fois, c'est nous qui annonçons les fautes. Et donc, il y a des grosses fautes qui sont pas annoncées, mais ça fait partie du jeu. Bon, y en a qui ont du mal à se taire, mais le but, c'est même s'il y a une grosse faute, continuer à jouer et pas s'occuper de l'arbitrage. Donc, on nous apprend difficilement parce que c'est pas facile, mais on nous en parle et on essaye de s'améliorer là-dessus.
Et j'imagine que le jour où tu prends une technique, tu te fais, parce que t'as parlé sur l'arbitrage, tu te fais un peu allumer.
C'est possible, après, ça va. Moi,
ça va. Oui,
c'est que Will Steele, l'entraîneur de Lens maintenant, mais à Reims, quand il avait affronté le PSG, la semaine avant d'affronter le PSG, il avait décidé d'arbitrer les rencontres, et pour frustrer ses joueurs et les préparer à des décisions arbitrales qui seraient contraires, il sifflait rien.
On a ça à mes entraînements. Ça rend fou.
Mais c'était pour les frustrer, les préparer, en fait, à ce qu'ils allaient vivre le week-end qui allait y arriver. Et au final, les mecs avaient fait quand même une sacrée performance. Je crois qu'il y avait eu un match nul de Reims au Parc. Ils avaient réussi à faire une belle performance là-bas.
On peut enchaîner avec du handball, avec l'équipe de France. Hein. Je vous en faisais l'éloge depuis deux émissions, qui réalisait un euro parfait, invaincu, et qu'on voyait déjà un duel final face à la Norvège dimanche dernier. Mais pour ça, il fallait passer vendredi l'obstacle danois. Et pour la première fois de la compétition, les Françaises ont balbutié leur handball. Une gardienne un peu moins performante que depuis le début, une défense aussi un peu moins performante, et surtout une attaque inefficace maintenue à 22 buts. Résultat 24-22 pour le Danemark. Et donc la France jouait dimanche non pas contre la Norvège pour prendre sa revanche sur la finale des JO, mais face à des Hongroises à domicile qu'elles avaient pourtant battu en poule, mais qui n'avaient rien à perdre pour la troisième place. Et des Hongroises à domicile qui n'ont rien à perdre, c'est compliqué à battre. Résultat, un match très serré tout du long. Et une dernière action, 30 secondes de la fin, où Tamara Horacek tente une interception, elle la rate. Finalement, défaite d'un but. Pour la première de Sébastien Gardiou en tant que sélectionneur de l'équipe de France, c'est une médaille en chocolat, comme en 2022 on avait fait à l'Euro. C'est très dommage après ce qu'on avait montré qui était digne d'une équipe qui pouvait aller chercher le titre en début de compétition. En finale, la Norvège, elle, s'est imposée, invaincue tout au long de la compétition. Elles ont montré que c'était la meilleure équipe en ce moment.
Ouais, c'est
et que même si on y était allé, je pense que ça aurait été très compliqué face à la Norvège.
Oui, en plus, ça fait un doublé pour elle. Hein, donc,
JO, Euro, enchaîné à 3-4 mois d'intervalle.
Ouais, c'est énorme. C'est une grosse performance. Hein.
Elle montre à quel point c'est les meilleurs en ce moment, tout simplement. Comme la France l'a été
dans le
passé. On peut finir avec du Vendée Globe, et après un peu plus d'un mois de course, n'ont pratiquement jamais été aussi serrés entre les premiers, excepté au départ, seulement 55 km entre le premier et le troisième. Aujourd'hui, alors qu'on a passé quasiment toute l'Australie, c'est maintenant Johan Richaume qui est passé juste devant Charlie Dahan sur son bateau Parpa Karkria, nouveau leader. Moins de 10 km entre les deux premiers, 55 entre le premier et le troisième, c'est fou après plus d'un mois, un mois, une semaine de course.
Ils doivent s'apercevoir au loin.
Ouais, ils peuvent pas prendre l'apéro ensemble. Ouais,
c'est clair. Mais bon, sacrée performance en tout cas, on est ravis de voir un Vendée Globe aussi serré, en espérant de voir ce Vendée Globe voilà, continuer comme ça jusqu'au Sable d'Olonne, là, d'ici un petit mois, à moins d'un mois, je pense.
C'est ça.
Ça va arriver. Hein.
Un trio, par contre, qui s'est détaché, hein, parce que derrière, le quatrième est à presque 1000 km derrière, normalement, ça devrait jouer entre ces trois-là. Maintenant, on commence à avoir les premiers abandons aussi. On a eu un dématage.
Ouais.
On a eu c'est des vidéos qu'on voit qui sont un peu tristes, mais en même temps, c'est aussi.
Il y avait beaucoup d'émotions. Je sais plus qui avait dématé là. On a vu la vidéo.
Une anglaise, je crois.
Mais il y a aussi un homme qui a dématé là, et qui est interviewé par l'équipe, je crois, et qui était vraiment.
Oui, c'était un peu plus longtemps.
Plein d'émotions, vraiment aussi. C'était.
C'est des années de préparation.
C'est la course
de
vie aussi. Ouais, voilà.
Des années de préparation qui, derrière, à cause d'un matériel qui tient pas, même si c'est du matériel forcément qui était bien préparé. Voilà.
Ils vont voguer vers le point zéro maintenant, le point le plus loin de toute côte.
Point Nemo.
Le point zéro, le point Nemo. Oh là là, faut que j'aille me coucher moi. Écoutez, passez une bonne soirée du coup. on va se quitter là-dessus, on va se quitter sur le Vendée Globe. On se retrouve jeudi avec toi.
Exactement.
Sur Twitch pour parler NBA.
Débriefer le match de ce soir.
Ouais, on va voir si Mathéo aura raison avec les Bucks et si Faustin aussi l'a également. Enfin, il y a deux équipes ce soir. Donc voilà, mais on espère en tout cas vous avez passé une bonne émission. On se retrouve d'ici 15 jours, on va essayer de vous créer une émission pour les réseaux sociaux, pour faire un peu le débrief de l'année. Et on vous souhaite une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.